votre journal, Julien Coquel-Rohem, bonjour.
Bonjour Andréane, à la une, le cessez-le-feu qui ne tient en effet qu'à un fil après des accrochages hier entre les deux pays et des frappes iraniennes sur les pays du Golfe pour la première fois depuis le début de la trêve. On appelle Washington dans un instant. La guerre qui continue au Liban, des frappes de l'armée israélienne et des combats avec le Hezbollah hier. Reportage à suivre sur le tarmac de l'aéroport de Beyrouth où une cargaison d'aide humanitaire française s'est posée hier. L'actualité ce matin, c'est aussi la visite d'État d'Emmanuel Macron en Arménie. Au Sénégal, un nouveau signe du divorce entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, le président, a limogé hier le porte-parole de la présidence, militant de la première heure du PASTEF. Et puis du foot et la première demi-finale retour de la Ligue des Champions, Arsenal va tenter de se défaire de l'Atlético Madrid ce soir à Londres.
Un cessez-le-feu plus fragile que jamais entre l'Iran et les États-Unis.
Les pays du Golfe de nouveau visés par Téhéran pour la première fois en près d'un mois de trêve. Les Émirats Arabes Unis et Oman disent avoir été touchés hier alors que les États-Unis lançaient dans le détroit d'Ormuz leur opération pour aider les navires bloqués par la guerre à le franchir. L'armée affirme avoir ouvert la voie à deux navires américains et détruit six petits bateaux iraniens. Téhéran dément et affirme avoir tiré des missiles à titre d'avertissement contre la marine américaine. La partie d'échecs se poursuit entre les deux pays. Bonjour Vincent Souriau.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Avec nous depuis Washington où ce regain de violence vient tester une fois de plus la patience de Donald Trump.
Oui, parce que c'est une violation pure et simple du cessez-le-feu. L'Iran s'en est pris à des destroyers américains avec des missiles balistiques. Sur le papier, il y aurait de quoi reprendre les hostilités. Ou du moins, on pourrait s'attendre à une riposte américaine, une frappe de précision sur un objectif stratégique iranien, par exemple. Mais ce qui est marquant, c'est que, au contraire, Donald Trump a minimisé cet accrochage. Alors qu'on nous dit depuis des semaines qu'il veut de l'action, qu'il n'en peut plus du statu quo, qu'il a même étudié puis annulé à la dernière minute un scénario de prise du détroit d'Ormuz par la force. Son entourage raconte aussi qu'il attend un faux pas des Iraniens, ce qui donnerait, d'après lui, aux États-Unis la légitimité d'agir. Or, on est pile dans cette hypothèse. Et jusqu'ici, le président américain n'a pas donné suite.
Donald Trump qui minimise, en effet, il affirme qu'il n'y a pas eu de dégâts hier dans le détroit d'Ormuz, à l'exception d'une explosion sur un bateau sud-coréen. Vincent, il accumule pourtant les menaces depuis des jours et parle sans cesse de l'état de faiblesse du régime iranien.
Oui, mais il temporise peut-être parce qu'en coulisses, les discussions progressent. En tout cas, c'est ce que prétend le chef de la diplomatie iranienne. Bien sûr, il y a le coût des hydrocarbures. Donald Trump ne veut pas de panique sur les marchés. Et puis, jusqu'ici, la Maison-Blanche garantissait que son blocus maritime avait un effet ravageur et qu'il allait faire tomber l'Iran comme un fruit mûr, en quelque sorte. Visiblement, ça n'a pas suffi à Donald Trump, puisqu'il y a maintenant cette opération Freedom Project censée protéger à distance les navires commerciaux. Opération qui n'est pas encore en place, qui s'annonce très complexe et qui serait déjà compromise si les hostilités reprenaient.
Vincent Souriau à Washington pour RFI, merci beaucoup. Et Donald Trump qui menace tout de même l'Iran d'être pulvérisé de la surface de la Terre s'il s'en prend à des navires américains. Le chef de la diplomatie iranienne affirme de son côté qu'il n'y a pas de solution militaire à une crise politique. Il exhorte les États-Unis à privilégier la voie de la diplomatie et à ne pas se laisser entraîner dans un bourbier. Téhéran visé en tout cas par les condamnations à l'international, notamment de la France, de l'Union Européenne et du Royaume-Uni. Après ces frappes dans le Golfe, les Émirats Arabes Unis visés par des missiles dénoncent une escalade dangereuse alors qu'une attaque de drones sur le site pétrolier de Fujairah a fait 3 blessés et provoqué un incendie.
Cette autre trêve n'a, elle, jamais été respectée. La guerre se poursuit au Liban.
Dans le sud du pays, de nouvelles frappes israéliennes hier et des combats signalés par le Hezbollah contre l'armée israélienne dont plusieurs soldats ont été blessés. Les bombardements israéliens ont tué près de 2700 personnes et fait plus de 8000 blessés depuis le 2 mars. Ils ont aussi poussé plus d'un million de Libanais à fuir leurs habitations et les destructions systématiques menées par l'armée israélienne dans les villages qu'elle contrôle empêchent aujourd'hui le retour des déplacés. Face à la crise humanitaire aiguë, l'aide arrive au compte-gouttes, comme cette cargaison française qui s'est posée hier à Beyrouth. Reportage Sophie Guignon.
Sur le tarmac de l'aéroport de Beyrouth et sous une pluie battante, un troisième chargement d'aide humanitaire venu de France vient d'atterrir. À son bord, 28 tonnes d'aide médicale. Bruno Da Silva, chargé d'affaires à l'ambassade de France au Liban.
Jusqu'à présent, la France a permis de faire venir une centaine de tonnes d'aide humanitaire. Là, il s'agit de médicaments, mais on a aussi fait venir des kits de nutrition infantile, des choses pour les femmes enceintes, des tentes. Évidemment, ça ne suffit pas et les besoins continuent tant que le conflit continue.
Ces médicaments seront acheminés dans des hôpitaux publics. Une goutte d'eau dans un océan de besoins, car la guerre a fait plus de 8000 blessés. Il reste toujours des centaines de milliers de déplacés.
Évidemment que la solution, elle n'est pas humanitaire. La solution, elle est politique. Le Hezbollah doit désarmer pour ne plus être une menace envers les Israéliens. Et si la menace envers les Israéliens disparaît, Israël, nous l'espérons, n'aura plus aucune raison d'occuper une partie du territoire libanais. Et donc évidemment, le chemin pour y arriver est long et escarpé, mais c'est celui-là sur lequel il faut s'engager.
En attendant, l'armée israélienne rase des villages entiers à la frontière et le Hezbollah refuse de déposer les armes. Sophie Guignon, Beyrouth, RFI.
Et les États-Unis continuent de faire pression sur Beyrouth pour une rencontre entre le président libanais et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le moment n'est pas approprié, a répondu hier Joseph Aoun, qui demande un accord de sécurité avec Israël et la fin des agressions avant toute rencontre. Au Sénégal, la tension toujours aussi forte au sommet de l'État, alors qu'il y a deux jours, le président Bassirou Diomaye Faye évoquait dans un entretien à la presse ses points de divergence avec le PASTEF au pouvoir et expliquait surtout qu'il était en mesure de limoger son premier ministre, Ousmane Sonko, si la confiance venait à être rompue. Une nouvelle étape franchie hier avec le limogeage du porte-parole de la présidence, Ousseynou Ly, militant de la première heure du PASTEF, remplacé par un très proche du président sénégalais, Léa Lisa Vesteroff.
Sur les réseaux sociaux, les réactions des militants du PASTEF ne se sont pas faites attendre. Choqués pour certains de voir Ousseynou Ly, ce fidèle militant de la première heure, aux côtés de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, lors de leur sortie de prison en mars 2024, remerciés. La dépastéfisation de l'État commence, commente un militant, tandis que d'autres parlent de ménage à la tête de l'État. C'est aussi l'analyse d'Alioune Tine, militant des droits humains et défenseur de la candidature d'Ousmane Sonko en 2024, qui voit dans ce limogeage le premier acte du divorce institutionnel entre les deux têtes de l'exécutif. Diomaye Moy Sonko, Diomaye Sey Sonko en Wolof, ce slogan de la présidentielle est mort, assure Alioune Tine. En nommant comme nouveau porte-parole de la présidence Abdoulaye Tine, un avocat qui n'a rien à voir avec le PASTEF, lui-même à la tête d'un petit parti, membre de la coalition Diomaye Président, le chef de l'État rassemble autour de lui des fidèles, assure le journaliste et analyste Hassan Samb, comme pour mieux se préparer à la guerre politique qui l'attend. Léa Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
En France, Julien, un député d'extrême droite visé par une plainte pour prise illégale d'intérêts et trafic d'influence.
Le rapporteur de la très controversée commission d'enquête sur l'audiovisuel public, Charles Alloncle, accusé par l'association anticorruption AC d'avoir influencé la teneur des débats en posant des questions directement suggérées par la société Lagardère News, qui regroupe plusieurs médias du milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré. Ça n'empêchera pas le député de présenter aujourd'hui son rapport, passé à deux voix de la censure la semaine dernière, 400 pages de recommandations diverses après des auditions très tendues, Raphaël Delvolvé.
Totalement inconnu du grand public il y a encore 6 mois, le député ciotiste Charles Alloncle devrait sans difficulté réussir à convoquer de nombreux médias tout à l'heure pour la présentation de son rapport. 80 recommandations pour, écrit-il, assurer la neutralité des radios et télévisions publiques, réduire leur budget d'un quart ou encore encadrer davantage la nomination de leurs dirigeants. Car pour lui, l'audiovisuel public, jugé trop à gauche et accusé de conflits d'intérêts avec des sociétés de production, doit être sauvé. Cette croisade de la droite et de l'extrême droite n'est pas nouvelle, mais le retour du sujet dans l'atmosphère à un an d'une présidentielle ne semble pas anodin. Samedi encore, Jordan Bardella du Rassemblement National, allié de Charles Alloncle, promettait d'engager la privatisation de l'audiovisuel public s'il arrivait au pouvoir. Néanmoins, le rapporteur Alloncle est vivement critiqué pour ses méthodes et ses conclusions, aussi bien à gauche, au centre qu'à droite. Des conséquences cependant au gouvernement, puisque la ministre de la Culture, Catherine Pégard, a convoqué ce lundi les patronnes de France Télévisions et Radio France, après avoir promis le dimanche des réformes, mais aussi une grande ambition pour l'audiovisuel public.
Raphaël Delvolvé, et alors que la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon dénonçait il y a quelques jours une utilisation de la commission d'enquête par Charles Alloncle à des fins politiques pour porter les idées de l'extrême droite. Et puis du football ce soir, et la première demi-finale retour de la Ligue des Champions. Les retrouvailles à Londres d'Arsenal et de l'Atlético Madrid après un match nul un partout très disputé à l'aller. Les Gunners vont tenter de se qualifier pour la finale, eux qui peinent à garnir leur palmarès depuis plusieurs saisons. Cédric de Oliveira.
Ils seront nombreux dans l'Emirates à soutenir les Gunners, sans doute un peu moins de 60 000 à espérer que leur protégé se débarrasse de l'Atlético. L'attaquant suédois Victor Gyökeres, buteur au match aller, s'attend à vivre un moment particulier.
Oui, bien sûr, c'est formidable de disputer ce match à domicile. Nous savons ce qui est en jeu et nous avons bien sûr une occasion en or de faire un super match et d'en profiter avec les supporters. Je pense que ça peut être une soirée mémorable.
Éliminé en demi-finale la saison dernière par le PSG, Arsenal s'attend cette fois à franchir cet écueil pour enfin concrétiser ses progrès. Très réguliers, les Gunners pourraient pourtant ne pas triompher, ni en Ligue des Champions, ni en Première Ligue, eux qui n'ont plus remporté de titre majeur depuis 2004. Ce sont donc les hommes de Mikel Arteta qui ont la pression, selon Nicolas Villas, consultant pour Radio Foot International.
Ça commence à faire beaucoup. Cette saison, elle est tellement à l'image de l'étiquette très caricaturale qu'on colle aux Gunners de club de losers, que si là, ils venaient à se faire sortir par l'Atlético, ça va être terrible en termes d'image et ils ont un titre à aller chercher, les Gunners. Alors si en plus c'est en Coupe d'Europe, bah c'est encore plus beau quoi.
Meilleure défense de la Ligue des Champions avec 6 buts encaissés, Arsenal va peut-être devoir se découvrir pour écarter les colchoneros d'Antoine Griezmann. S'il s'impose, le club anglais accédera enfin à la finale de la Ligue des Champions, 20 ans après sa dernière participation.
Et un signe d'espoir pour Arsenal hier soir côté championnat, après l'échec de Manchester City. Tenu en échec 3 buts partout à Everton, Arsenal a désormais 5 points d'avance sur son dauphin en Première Ligue. Même si Manchester City a encore un match de plus à disputer, les jeux ne sont pas faits, mais les Gunners gardent leur destin en main. Pour la Ligue des Champions, c'est donc ce soir Arsenal-Atlético, coup d'envoi 19h, temps universel.